permet. Notre abri, c'est pas un bunker sous la terre. Ça serait pas bien. Notre abri, c'est pas un bunker sous la terre. Et pourtant, parfois, il peut arriver dans la vie, dans notre cheminement avec Dieu, que au lieu de chercher en Dieu un refuge, on va en chercher d'autres. Et ce matin, je voudrais partager, du moins c'est la pensée que j'ai reçue du Seigneur, quand je lui ai demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois leur dire? Et j'ai cette pensée qui est venue, cette pensée qu'on retrouve dans une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 5, 15, que on peut être enfant de Dieu, mais c'est pas pour autant qu'on vit pleinement à la lumière de Dieu. On peut se trouver des abris, des faux abris, comme pour se protéger, comme pour se préserver. Parce que, pour des raisons XY, il y a tellement de choses qui font qu'on ne veut plus être dans la lumière. Alors on se tient dans les, je ne vais pas dire les ténèbres, mais dans des lieux cachés, pour passer inaperçu. Cette parole, c'est Matthieu 5, 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes d'accord avec ça? Du moins, c'est ce que Jésus nous dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ben, ça commence aussi à l'église. Ça commence et ça continue aussi dans la famille. Ça se poursuit sur le lieu de travail. Ça se poursuit normalement dans notre quartier, là où nous vivons. Afin que, au milieu de ce monde qui est ténébreux, les gens qui sont perdus voient une lumière briller. C'est important. C'est important parce que nous sommes la lumière de Dieu. Ah oui, j'aurais pas dit oui, la lumière du monde, mais honnêtement, est-ce que dans le monde nous brillons parfois? Des fois oui, des fois non, ça dépend de nos contextes. Mais Dieu, lui, nous a établi lumière. Nous reflétons non pas nos capacités, mais nous reflétons la lumière de Dieu. Amen? Ouais? Eh oui. L'évangile de Matthieu nous parle donc de ce chandelier, ou plutôt de cette lampe qui est mise sous le boisseau. Si on lisait les autres textes des autres évangiles qui reprennent la même pensée, nous aurons dans l'évangile de Marc, c'est une autre image, sous le lit. On ne met pas la lumière sous le lit. La lampe, on la met pas sous le lit. Et si on lisait dans l'évangile de Luc, il est parlé d'un lieu caché. On ne met pas la lumière dans un lieu caché. Mais la lumière, elle est telle les lumières sur au plafond, elles sont toujours en hauteur. Et en Christ, forcément, il y a des hauteurs qui se prennent pour que nous puissions refléter la lumière de Dieu. Alors je voudrais me servir d'un homme ce matin, l'histoire d'un homme qui est très connu dans l'Ancien Testament et qui nous montre que parfois, au lieu d'être cette lumière, nous sommes de ceux qui nous cachons dans les profondeurs de la terre, dans les bunkers. Vous voyez de qui je parle? Un grand prophète. Non, pas lui. Élie. Un grand prophète de Dieu. Quand même, il a fait des choses à la lumière du monde, aux yeux du peuple de Dieu. Il a fait des choses quand même assez spectaculaires, de là faire descendre le feu du ciel. Et pourtant, à un moment donné, on va pas lire le texte, quelques versets de temps en temps comme ça, mais à un moment donné, parce qu'il aura la crainte qui va rentrer dans son cœur, parce qu'il va entendre qu'il y a une menace sur sa vie. Jézabel veut le faire tuer. Je passe rapidement sur les détails. Et là, il y aura une panique qui va se mettre dans son cœur et il va prendre la fuite. Et le meilleur endroit qu'il va trouver pour se réfugier, c'est un bunker au fond de la terre. Une grotte. Je lis le texte, mais c'est qu'un verset que je vais lire, dans 1 Roi 19, verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes : Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici, Élie ? L'histoire d'Élie, quand même, elle est saisissante d'enseignement pour nous. Je ne sais pas dans quel état spirituel vous êtes, quoique ici vous êtes tous bien, je pense. C'est le pasteur, je pense, oui. Mais parfois il arrive qu'ailleurs, et ça peut nous arriver même aujourd'hui, qu'on ait des passages un peu avides. Et au lieu d'être lumière un peu dans les hauteurs, qui devrait éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, nous sommes de ceux qui nous cachons, réfugions, dans des grottes, dans des grottes. Du moins, c'était l'expérience d'Élie. Que fais-tu ici, Élie ? Lui poser une question, elle est très simple. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'Élie se retrouve dans cette grotte, selon vous ? Oui ? Non ? Oh, tout à fait, oui. Mais ça, c'était pas dans la grotte, c'était avant la grotte. Parce que quand Dieu lui a parlé, quelle est la première chose qu'il lui a dit ? Tu sors d'ici. Tu sors d'ici. Les forces qu'il a reçues pour le repas, c'était pour accomplir une tâche très particulière, une mission, qui était d'aller oindre un nouveau prophète et oindre un nouveau roi. Mais le chemin était tout droit. Lui, il a fait ce qu'on va appeler déviation. Étonnante, parce que Dieu lui dira, mais que fais-tu ici ? Si on lisait dans d'autres versions, la Chouraki, pour ne pas la citer, ou si on lisait le texte hébreu même, on verrait que la formulation de la phrase, elle est quand même un peu ironique. Dieu fait un peu d'humour, un peu d'ironie parfois. Elle serait tournée comme ceci, la Chouraki dirait, comment, toi, ici ? Il faut mettre l'intonation, hein, c'est sûr. Dieu qui regarde son prophète et lui dit, on ne sait pas quand, est-ce que c'est pendant la nuit, est-ce que c'est le matin, on ne sait pas, mais c'est venu soudainement, d'un seul coup, ça lui tombe dessus comme ça, et Dieu lui dit, comment, toi, ici ? On a tous utilisé ce ton, parfois, quand on rencontre quelqu'un d'une manière un peu inopinée. Tiens, toi ici ? Tiens, tu vas à l'église, toi ? Non ? Si, ça nous arrive. Et on a l'impression que Dieu, pourtant Dieu, il sait tout. Dieu, il sait tout. On ne va rien lui apprendre, hein ? Dieu connaît nos réactions, Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos paroles, Dieu connaît toutes choses, et Dieu sait même l'avenir. Dieu savait très bien qu'Élie aurait son moment de coup très bas et qu'il se retrouverait dans cette grotte. Et pourtant Dieu vient à lui, on va dire, un peu l'air surpris. Il fait l'air surpris. Tiens, toi, mon prophète, toi ici, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? As-tu oublié ce que tu as fait sur le mont Carmel ? Mais qu'est-ce que tu fais là maintenant ? Dis-moi, Dieu s'adresse à lui un peu sur ce ton. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ça nous fait un peu réfléchir parce que quand même Dieu, bon, le sait, on sait que Dieu sait tout, mais est-ce que parfois Dieu n'est pas étonné ? Ou plutôt, est-ce que Dieu parfois ne fait pas l'étonné quand il nous regarde vivre ? Parce que en Christ, tous ceux qui sont en Christ, je pense que vous êtes en Christ, du moment que vous avez été réconcilié avec le Seigneur, passé par les eaux du baptême, vous êtes en Christ. Mais tout cela nous introduit dans une vocation céleste. On le sait, une vocation éternelle. Une vocation glorieuse en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu attend des choses très particulières. Tout à l'heure, il était parlé de devoirs. Bien sûr qu'on a des devoirs envers Dieu. Dieu attend quelque chose de nous. Et Dieu pourrait être très étonné, parfois, de nous voir vivre notre vocation. Notre vocation éternelle, céleste, spirituelle, ne commencera pas simplement là-haut quand on sera dans le ciel. Elle commence déjà ici-bas. Que votre lumière luise déjà sur la terre. Et Dieu pourrait se dire, mais comment ça se fait ? Ça ne brille pas. Tiens, mon enfant, tu ne brilles pas. Dieu pourrait faire l'étonné, pourtant il le sait. Il le sait pourquoi on ne brille pas. Il le sait ce qui ne va pas dans nos vies et qui empêche cette lumière de se diffuser. Il le sait. Mais je crois que parfois le Seigneur veut attirer notre attention pour nous montrer tout simplement du doigt ce qui ne va pas. Parce que bien souvent, c'est tellement... Parfois, on a nos problèmes tellement sous les yeux qu'on vit avec, qu'on se nourrit d'eux et qu'on en oublie de regarder à la vocation que Dieu nous a pourtant appelée. Être la lumière du monde. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que notre vocation en Christ n'est pas d'être des adorateurs? Ouais. Bon, on ne va pas commencer à louer Dieu simplement là-haut. On va commencer déjà ici-bas. Mais Dieu pourrait faire l'étonner. Mais tiens, comment ça se fait, mon enfant? Tu ne m'as pas loué ce matin. Mais vous pouvez prendre tous les jours de la semaine, parce qu'on ne loue pas Dieu que le dimanche matin. Hein. Un peu tous les jours. Hein. Tiens, mais mon enfant, tu ne m'as pas loué aujourd'hui. C'est étonnant. Pourtant, tu en as des raisons pour me louer. Tiens, tu n'as pas fait. Notre vocation céleste n'est-elle pas d'être des témoins de l'œuvre de la croix, de l'amour de Jésus? Et souvent, du moins, je ne sais pas vous à Moissac, mais c'est souvent le cas un peu partout, mais quand on est devant des personnes et on sait qu'il faut leur parler, qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Bon, on aimerait que ce soit le Saint-Esprit, mais parfois ce sont des craintes. Alors on ne parle pas. Ou on appelle vite le pasteur. Pasteur, venez vite, il y a un témoignage à apporter. Mais le Seigneur pourrait dire, mais mon enfant, mais pourquoi tu n'as pas témoigné? T'es appelé à ça? Dieu est parfois étonné. On a tous un témoignage à donner, non? Ouais, ben le vôtre, hein? Ah ben oui. Et c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre, les gens de ce monde. Le témoignage qui a bouleversé nos vies, qui a changé notre existence, l'amour de Jésus. Notre vocation céleste n'est-elle pas aussi de prier, d'intercéder pour les âmes qui se perdent? Ça commence à la maison, ça se poursuit à l'église, au travers des réunions de prière, selon les programmes. Mais Dieu pourrait être étonné de voir, mais tiens, t'as pas prié? Tu les as pas pris à cœur, ces âmes? Tes prières, c'est que l'exposition de tes problèmes. Ta vie de prière, c'est que de gémir, de pleurer devant Dieu, de supplier. Et oui, mais le salut des autres, Dieu pourrait être étonné qu'on ne le prenne pas à cœur, le salut des autres. On est appelé à être des vainqueurs. Même l'apôtre Paul dira des plus que vainqueurs. Et Dieu pourrait être étonné de nous voir toujours dans le découragement. Mais comment ça se fait qu'ils sont toujours aussi découragés? On est appelé à être saint. Vous serez saint parce que je suis saint, a dit Dieu. C'est notre vocation, quand la sainteté en Jésus. On ne parle pas de perfection, on ne peut pas être parfait, hein. Mais de la sainteté, ça on peut. Et oui, mais Dieu pourrait être étonné, mais comment se fait-il? Il devrait être saint, il vit dans le compromis. Il laisse le compromis et le péché rentrer dans sa vie. Dieu pourrait être étonné. Et on pourrait faire des listes jusqu'à midi. Hein. Mais quand Dieu va regarder Élie, Dieu va être étonné. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas ta place. Tu es mon prophète. Ta mission n'est pas finie. Il y a encore des œuvres préparées pour toi. Et c'est pour ça que Dieu va tout faire au travers d'une expérience très personnalisée. Mais Dieu va venir dans sa grotte. Et Dieu va se révéler d'une manière particulière pour lui redonner un petit peu le feu de l'esprit. Pour qu'il puisse obéir à nouveau à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Dieu va se révéler, je passe très vite sur les différentes manifestations, le vent, la tempête, voilà, toutes ces choses. Hein. Et quand ces manifestations se produiront, le Seigneur, à nouveau, lui posera la question. Élie, que fais-tu ici? Sors. Sors de cette grotte, sors de ce lieu et va. Va là où je te commandé d'aller, et il va partir, oindre le nouveau prophète, Élisée, oindre le nouveau roi, Jéhu, etc., etc. C'était une étape que Dieu connaissait d'avance, mais que Dieu ne voulait pas, quelque part. Oh, ça n'a pas été du temps perdu, parce que Dieu s'est révélé à son cœur, mais ça nous montre bien que on est tous un petit peu de la même nature. Des fois, on sera des lumières qui vont briller, et des fois, on sera de ceux qui allons nous cacher, comme pour prendre même la fuite devant les situations de la vie. Mais Dieu, qui est bon, va venir nous chercher là où on va essayer de se réfugier, parce que Dieu sait très bien que c'est pas pour nous. On n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à fuir la volonté de Dieu. On est appelé à vivre la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Mais ouais. Mais Dieu connaît la nature humaine et Dieu ne nous écrase pas, bien sûr, par sa sainteté, par sa souveraineté, mais Dieu vient nous rattraper dans nos fuites. Dieu vient nous chercher dans nos refuges que nous nous fabriquons pour essayer de nous protéger. Dieu vient nous chercher pour nous ramener sur le chemin de sa volonté. Je dirais que Dieu a besoin de nous, mais en fait, pas tout à fait, mais Dieu veut se servir de nous. Il est écrit dans 2 Timothée 2, je fais que citer le texte, « Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. » Utile. Utile. C'est quoi le contraire d'utile? Ah, vous connaissez? Inutile. Est-ce que Dieu peut m'utiliser ou est-ce que Dieu peut pas m'utiliser? Là, voilà la question. Parce que le salut, finalement, c'est d'être utile à Dieu. Pour son œuvre, pour son royaume. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le salut, c'est de travailler pour Dieu. Et ça commence, oh bien sûr, ça s'arrête pas là, mais ça commence déjà, mais bien sûr, dans l'église. L'église locale, ça commence là. Ça commence là. C'est là que les choses débutent. C'est là que le Seigneur se sert de nous, dans les petites choses. Oui, mais si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va pousser, Dieu va conduire dans des plus grandes. Et ça peut dépasser même le cadre de l'Église, et heureusement. Mais sommes-nous utiles? Sommes-nous utilisables? Sommes-nous des lumières? Ou sommes-nous cachés dans des grottes? La question, elle est là. Qu'est-ce que Dieu peut dire en me regardant du haut des cieux? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ou, tiens, toi, mais qu'est-ce que tu vis ici? C'est pas ta place. C'est pas ta place. Je vous connais pas. Oui, pour la totalité même, je vous connais pas du tout. Donc, je pense avoir une certaine liberté. Lui non plus, je ne connais pas. Mais peut-être que je vais essayer de rendre cette pensée essayer en faire que vous puissiez vous l'approprier. Est-ce que tu n'es pas dans une grotte? Est-ce que ta vie chrétienne n'est pas enfermée dans une grotte? Alors il peut avoir plusieurs formes de grottes. Hein. Nos grottes, ce sont toutes ces choses que nous fabriquons comme pour essayer de nous préserver, de nous protéger, parce que la vie est difficile quand même. La vie ici-bas est difficile, c'est pas simple. La vie est faite de souffrance, alors comme on veut pas plus souffrir, alors on essaie de se mettre en retrait, voire même de se cacher au fond d'une grotte, tout simplement pour être préservé, pour se préserver. Peut-être que dans ton cœur, il y a comme un sentiment d'abandon. C'est terrible l'abandon, le sentiment d'être abandonné, ce sentiment de solitude. Ah, c'est sûr, quand on se sent vraiment seul et qu'on en souffre, ben, la joie ne se rayonne plus. Hein. Et ce sentiment, il ne s'arrête pas parce que je franchis les portes de l'église. Non, ce sentiment, il est accroché à mon âme. Et là, par l'abandon, je peux... Mais d'une manière très... très, comme une spirale très douce m'entraîne au fond d'une grotte. Je m'isole. Plus je suis seul, c'est paradoxal, mais plus je suis seul, plus je me nourris de ça, plus je m'isole, plus je me coupe, et plus je suis au fond de ma grotte. Même un enfant de Dieu peut vivre ça. Et c'est terrible. C'est terrible. Solitude, peut-être dans le couple. Le couple est devenu tout simplement une cohabitation sous le même toit. Grande solitude. Chacun vit dans sa grotte, sous le même toit. Terrible, hein ? Pour des enfants de lumière. La famille. On a grandi le cercle, la famille. Papa, la maman, le cousin, le frère, la sœur. Parfois, il y a des situations familiales, mais c'est dramatique. On ne veut voir plus personne. Alors on se met dans sa grotte et on la barricade. Parce que si jamais il venait nous chercher. Terrible pour des enfants de Dieu. Mais tout ça, ce sont des conditionnements pour s'auto-protéger. Et oui, mais Dieu dit, mais mon enfant, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es appelé à être lumière même dans ta famille. C'est pas évident, c'est pas simple, hein. Suivant les situations que l'on peut vivre au travail. C'est pas parce qu'on va tous les lundis au travail, tout à fait au travail, qu'on est bien au travail. Certainement pas. Le monde du travail est très dur. Très dur. Et on peut se retrouver, là aussi, dans sa grotte. Parce qu'on est chrétien. Et parce que les autres se moquent de nous. Alors on s'isole, on se coupe. Les souffrances font que parfois, oui, la grotte devient un lieu de refuge, un abri. Quand on a été déçu. Mais déçu, mais même dans l'Église. Quel est le chrétien qui n'a jamais été déçu dans l'Église? On est tôt ou tard, on est confronté à la déception. Il suffit un petit peu de s'engager dans l'Église pour que, à un moment donné, on soit déçu. Oh, déçu des autres. Pas de Dieu, quoique ça peut arriver aussi. Mais déçu des autres. Ah, oh, on croyait quand même un tel frère. Oh, lui, c'est pourtant un responsable, un ancien, ou le pasteur. Et voilà qui vous a déçu. Et là, on s'est dit, ben, puisque c'est ça, bon, je ne veux plus rien. Moi, je ne fais plus rien. J'assiste aux réunions, qu'on ne me demande plus rien. Bon, ici, ça n'existe pas, c'est sûr. Qui arrive. Mais des fois, ce sont des choses qui se mettent en place et on se met dans sa grotte. On est dans l'église, mais on est dans sa grotte. Terrible. Parce que Dieu peut nous dire, mais mon enfant, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas sauvé pour que tu sois dans une grotte. On peut être dans une grotte aussi parce qu'on fuit tout simplement des choses très particulières. On peut fuir des situations. Parce qu'on sait qu'il faut régler des situations, mais ça coûte trop de les régler. Alors on fait la politique de l'autruche, on regarde pas. On est dans sa grotte, on regarde pas les situations en face. On espère qu'avec le temps, ça va se régler tout seul. Non, rien ne se règle tout seul. Et on fuit dans sa grotte. On peut fuir des personnes. Parfois, il arrive que des personnes se fient, ou même dans l'église. Hein. Quoique ici, c'est encore ça, c'est étroit. Je veux dire, vous n'avez qu'une porte. À un moment donné, on se croisera tous au moment, je pense, hein, on va tous se croiser. Mais une fois, dans les grandes églises, où il y a plusieurs sorties, donc plusieurs entrées. Ah oui, les chrétiens, ils calculent. Hein. Je vais le laisser sortir, comme ça, après, je partirai après. Ou j'attends que le culte ait commencé, 5 minutes, et j'arrive, comme ça, au moins, je ne le verrai pas. Je la verrai pas. Ça fait sourire, mais des frères et sœurs souffrent de ces choses-là. Mais ils se nourrissent de ça, parce qu'ils restent dans leur grotte, de se fuir les uns les autres. On peut fuir la vérité. La parole est la vérité. Et vous savez, quand le cœur est un peu dans le compromis, parfois des prédications ou nos lectures de la Bible, ou parfois dans des conversations, on entend la voix du Seigneur nous dire, tu vois, là, il faut que tu fasses quelque chose, mais tu peux plus rester dans cet état. Et ça nous met mal à l'aise parce que cet état, on l'aimait bien quand même. Ça nous arrangeait. Et on se met à fuir, à se boucher les oreilles. On fuit la vérité. On peut fuir la sainteté de Dieu. Jésus dira, quand tu pries, entre dans le secret de ta chambre. On peut fuir le secret de notre chambre. Parce que là, on sait que quelque part, Dieu va nous parler. Et on sait ce qu'il va nous dire, alors on veut plus l'entendre. Alors on fuit notre vie de prière. On peut suivre les commandements de la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, et si jamais il y avait un souci, ben de nous pardonner réciproquement, ben faut-il être animé d'une bonne disposition de cœur pour vivre ça? Et ce n'est pas toujours le cas. Alors on va fuir le commandement de se pardonner. En se disant, « Oh, j'attends que l'autre vienne. » C'est une fuite. On peut fuir la croix même. Pourtant, c'est là où tout a commencé, avec le Seigneur, la croix. Quand nous étions à genoux devant la croix, demander pardon pour nos péchés, c'est là qu'il nous a relevés en nous donnant une vie nouvelle. Oui, mais parfois, des passages à la croix, c'est nécessaire d'y revenir. Oui, mais des fois, on ne veut pas. Parce qu'on sait que c'est un chemin qui va demander que nous nous humilions devant Dieu. Ou que nous demandions pardon aux uns, aux autres. Ou peut-être même à l'Église. Et ça, sont des choses. Alors, on se limite. Oh Seigneur, tu sais, je te demandais pardon. Mais l'autre partie qui est de demander pardon peut-être aux hommes, ou à l'Église, ou à voilà, n'importe qui, celle-là on ne la fait pas. On peut fuir Dieu lui-même. Dieu lui-même. On a un exemple, il est quand même, c'est Adam et Ève. Vous connaissez Adam et Ève? Ils étaient bien, hein? Du moins, ils ont bien commencé. Ils vivaient une vie qu'on peut qualifier de parfaite, une relation parfaite avec le Seigneur. Tout aurait été si bien si ils avaient regardé au commandement de Dieu. Et pourtant, à un moment donné, ils vont, vous connaissez l'histoire, ils vont prendre le fruit défendu. Et là, tout va basculer. Tout va basculer. Et le texte nous dit, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Et honnêtement, c'est la même situation qu'avec Élie. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas où il se cachait ? Vous croyez que quelques feuillages vont nous cacher de la présence de Dieu, de la face de Dieu, du regard de Dieu? Mais c'est pas possible. Pourtant, c'est ce qu'ils ont cru. Quand la voix de l'Éternel s'est mise à parcourir le jardin, quand Dieu lui-même commençait à venir dans le jardin, ils ont eu peur. Alors bon, ils n'avaient pas de grotte sous la main, mais ils ont eu un buisson, un feuillage, un bosquet, bref, on ne sait pas trop. Mais ils se sont cachés là. Et certainement qu'on imagine... Adam dit rêve, pourvu que Dieu ne nous trouve pas. Et Ève de dire, oui, amen, 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 pourvu qu'il ne nous trouve pas. Et Dieu qui passe, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et comme la voix du Seigneur est toujours la plus forte, Adam a été comme un peu découvert. Il va lui répondre, c'est paradoxal, il essaie de se cacher. Et dès que Dieu parle, il lui répond. C'était la chose à pas faire. Et il lui répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Vous voyez, finalement, l'histoire d'Élie, elle n'est pas nouvelle. Hein? D'autres l'ont vécu bien avant. Les tout premiers même l'ont vécu. Donc, on est quand même tous de la même nature. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui la vis, cette histoire. Tu la vis peut-être depuis quelques jours, voire peut-être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années même. Des années que tu te caches dans ta grotte. Alors que tu sais pertinemment que tu es une lumière. La lumière de Dieu. Qui doit briller dans le monde. Dans l'église, mais dans le monde. Tu dois briller, quel que soit le lieu, tu dois briller. Mais tu t'es caché dans ta grotte. Parce que, pour tes raisons à toi. Oh, elles sont justes, elles sont peut-être valables, tes raisons. Mais ta vocation est plus grande que toutes les raisons que tu pourrais te mettre en avant pour t'auto-justifier de ta position. Ta vocation est plus grande que tes peurs. Ta vocation est plus grande que tes souffrances. Ta vocation est plus grande que tes craintes. Tu es appelé à être lumière du monde. On retrouve aussi cette histoire avec un autre personnage, vous l'avez cité, c'est Jonas. Jonas, prophète de l'Éternel, appelé à faire une œuvre particulière, d'aller prêcher à Ninive le salut et la repentance. Mais comme il sait, Jonas, que s'il le fait, ça va marcher. Et comme il sait que les Ninivites, il les a pas franchement dans, sur son cœur, hein, c'était les ennemis un petit peu d'Israël. Hein. Non, lui, il veut les voir tous périr. Alors quand Dieu lui dit « Tu vas à Ninive », il a très bien compris quand même. Hein. Il dit « Non, j'irai pas, je vais aller là-bas, c'est mieux. » En Espagne, Tarsis. Et là, vous connaissez, il va prendre le bateau, Dieu lève la tempête. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Alors que tous les marins sont dans la panique, en train de savoir qui est le fautif de cela, chacun invoque son Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il descend. Oh, il va dans sa grotte. Même dans le bateau, il y avait une grotte. Il va au fond de la cale. Et si on regardait le texte hébreu, c'est même intéressant de voir que c'est, dans les Louis II, c'est traduit « il s'endormit ». C'est pas ça. En fait, l'image du texte hébreu traduit « il étouffe sa conscience ». Il étouffe sa conscience. Il lutte avec sa conscience. Il le sait très bien qu'il est le responsable de la situation. Il le sait que si la tempête s'est levée, c'est parce que c'est Dieu qui est en train de lui résister. Il le sait. Alors il est en lutte avec lui-même. Et Dieu, il le sait. Mais à un moment donné, ça sera plus fort que lui. On va venir le chercher et dire, mais et toi, pourquoi t'invoques pas ton Dieu? Oh, pas la peine. Pas la peine. Je sais que c'est ma faute. Oh, jetez-moi à la mer, c'est bon, ça va se régler. Et voilà, c'est bon. On a trouvé le responsable, le bouc émissaire, dira le capitaine, et hop, aussitôt le bonhomme est à l'eau. Hein. Et aussitôt la tempête s'arrête. Et aussitôt le grand poisson, il arrive. Et aussitôt, il est là, dans l'estomac. Et là, il va réfléchir. Pardon, Seigneur. J'accomplirai les vœux que je t'avais formulés. Je serai ton serviteur. J'accomplirai la vocation à laquelle tu m'as appelé. Dieu dit, ok, très bien. Et voilà qu'il va être remis sur la plage, régurgité sur la plage, et là, il va accomplir la mission. Bon, mais le cœur n'y est pas, hein, mais bon, il le fait quand même. Il le fait quand même. Donc, on voit que ce soit Adam, Ève, Élie, Jonas, et on pourra en citer d'autres, mais tous ont eu ces mêmes réactions qui, à un moment donné, au lieu de faire la volonté de Dieu, ou au lieu de rentrer dans la vocation céleste de Dieu, on a cherché des chemins de pour se cacher, pour se réfugier, pour éviter d'obéir à Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul nous dira qu'en Jésus-Christ, Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. Amen. Oh, je vais le relire parce que je pense que vous ne l'avez pas bien entendu. « Ayez du zèle. » Vous êtes zélé? Non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voici ce que dira la parole vivante de ce texte. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Amen. Mais ça, ça veut dire sors. Sors de l'état dans lequel tu t'es mis. Parce qu'aujourd'hui, tu es prisonnier de cet état. Sortir. Je crois que Dieu est vraiment un libérateur. Je crois que Jésus est le libérateur. Il nous libère, certes, de nos péchés, bien sûr, l'expérience du salut, mais chemin faisant, il est aussi celui qui continue à nous libérer pour que nous soyons de plus en plus libres. Et plus je suis libre de moi-même, plus je suis capable de lui obéir. La liberté, c'est d'obéir à Dieu. Donc, si dans ton cœur il y a des problèmes en toi qui t'empêchent d'obéir pleinement à la volonté de Dieu, c'est bien la preuve qu'il y a en toi des choses que Jésus doit briser. Des choses qui peut-être sont là depuis très longtemps et qui te retiennent captif et prisonnier. On a dans les évangiles un homme, c'est une belle histoire, c'était l'ami de Jésus, qui à un moment donné va tomber malade. On va venir chercher Jésus, mais Jésus ne viendra pas, se déplacera pas. Et son ami va même mourir de cette maladie. Et on va le mettre dans, la Bible dit, dans une grotte. Vous voyez de qui je parle ? Lazare. Jésus se rendit au sépulcre, c'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Et il cria d'une voix forte, qu'est-ce qu'il a crié Jésus ? Waouh, Lazare sort. Il faudrait que je mette un peu plus d'intonation peut-être. Hein? Lazare sort. Sort. Et il s'est passé quoi ? Eh bien, qui peut résister à la voix de Dieu ? Même Adam, qui croyait se cacher, il lui a répondu quand Dieu lui a parlé. Le mort est sorti. Quoique le mort, devenu vivant, est sorti. Donc je crois que si Dieu peut sortir de la grotte un mort, et pas le moindre, c'était son ami. Et nous, on est quoi pour Jésus ? Est-ce qu'on n'est pas ses amis ? Quand même, hein ? On est frères et sœurs de Jésus, co-héritiers, et il nous aime beaucoup. Hein ? Et quand il nous voit dans notre grotte, et qu'en plus on a roulé une pierre de peur qu'on vienne nous chercher, Jésus dirait tout simplement, alors vous mettez votre prénom, hein, je ne connais pas, sors. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre la voix de Jésus. Nous dire de sortir de nos grottes, de notre bunker, de sortir de nos situations, de sortir de nos peurs, de nos craintes, de nos souffrances, de sortir. Est-ce qu'on le peut ? Non, bien sûr que l'on ne peut pas, mais sur la voix de Dieu, parce que Dieu l'a dit. Et on se souvient de Pierre, où Jésus dira, mais vas-y, jette le filet à droite. Mais Jésus, j'ai pêché toute la nuit. Bon, sur ta parole. Je le fais. Et là, le filet se remplit. C'est miraculeux. Si Jésus te dit de sortir de ton état, si tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit « Tu peux, parce que c'est pour toi aujourd'hui », c'est que le chemin, il est ouvert. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Tu dois en sortir. Parce que Dieu t'a appelé à être sa lumière, là où Dieu t'a placé. Le Saint-Esprit. La Bible dit que même Jésus a été ressuscité le troisième jour. Lui aussi, il a connu ce chemin un peu particulier. Il a eu droit à sa grotte, si on peut parler ainsi. Le sépulcre était toujours quelque chose de creusé, une caverne, c'était dans une grotte. Mais il est sorti de la grotte le troisième jour. Il n'est pas resté dans sa grotte. La puissance du Saint-Esprit. Les textes nous disent que c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, un esprit de vie qui est venu, qui a relevé son corps, ressuscité. Il va sortir de la grotte. Mais l'Esprit de Jésus, nous l'avons aussi. Le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sortirons, c'est par lui que nous triompherons de nos peurs, de nos craintes, de nos raisonnements, de nos fuites, de toutes ces choses qui nous tiennent comme blottis tout au fond de notre grotte. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je vais terminer en me servant de ce texte du temps de Gédéon pour vous montrer que même si la voix du Seigneur, nous la connaissons, nous l'entendons, et même si peut-être ce matin, vous entendez cette voix du Seigneur qui vous dit « Mais oui, tu peux sortir toi aussi, c'est pour toi ce qu'il dit. » On peut résister. On peut malheureusement résister à la voix du Seigneur. Il est écrit dans le livre des Juges, on est du temps de Gédéon. Il est dit que les Madianites venaient de temps en temps, là ils faisaient un pillage, ils s'emparaient de tout. Et le peuple d'Israël à ce moment-là, du moins la tribu d'Israël à ce moment-là, avait comme seule alternative d'aller se cacher dans des grottes. C'est terrible pour le peuple de Dieu. Le texte dit « L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent ». Vous voyez, ça va plus loin que d'aller se réfugier. La grotte est tellement bien qu'on en fait un deuxième logement. On met la petite table, le lit, tout, on est bien. Au moins là, les Madianites, ils vont pas nous trouver. Ils s'aménagèrent des grottes dans des abris et dans des cavernes, dans des endroits escarpés des montagnes. Ils s'aménagèrent. Je ne sais pas si vous vous êtes aménagé des abris dans des grottes. Peut-être c'est tellement devenu confortable que ça vous a tellement séduit que vous ne voulez même plus en sortir. Mais si vous tendez l'oreille, vous entendrez la voix du Seigneur vous dire que ce n'est pas un lieu pour vous. Votre vocation doit vous amener à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est toujours à l'extérieur, pas dans des grottes. Les grottes, c'est noir, c'est obscur, il n'y a pas de fenêtre. Oui, mais la lumière, on ne la met pas dans des lieux cachés, la lumière, on ne la met pas sous le lit, la lumière, on ne la met pas sous un boisseau, la lumière, on ne la met pas dans des grottes, la lumière, on la met à hauteur, pour que tout le monde la voie. Alors entendons la voix du Seigneur nous dire tout simplement que la sortie, elle est déjà préparée. Suffit de saisir la main du Seigneur. Et c'est en saisissant la main du Seigneur que les forces nous seront données pour sortir de l'état dans lequel peut-être quelques-uns sont. Cet état spirituel qui fait qu'on est, au lieu d'être fervent, on est terne, fané. Entendre la voix du Seigneur. La grotte, c'est quelque chose duquel je peux sortir peut-être aujourd'hui. Quand il est sorti de sa grotte, Élie, de suite, il est allé servir Dieu dans des tâches très particulières qui étaient les siennes. Nous sommes sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Et ce n'est pas pour que nous nous aménagions des grottes. Mais c'est pour être des lumières, déjà dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons, sur le lieu de travail, dans nos quartiers, dans la ville. Dans la ville. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et est-ce qu'on peut prier un moment? Notre Dieu, nous te bénissons. Ta parole est une lampe qui nous éclaire. Elle met en lumière nos ténèbres. Elle met en lumière, elle mettra toujours en lumière ce qui ne te plaît pas. Ô notre Dieu, que par le Saint-Esprit, ces paroles puissent maintenant se graver dans nos cœurs et nos consciences. Je te prie, Seigneur, oui, de faire cette œuvre de conviction maintenant. Parce que c'est toi qui veux interpeller ton peuple, c'est toi qui veux aider ton peuple, c'est toi qui veux libérer ton peuple, c'est toi qui veux te... utilisez ton peuple, notre Dieu, oui, que l'action du Saint-Esprit maintenant puisse redonner la vie, là où la mort peut-être est revenue. Notre Dieu, toi seul, es capable de ce miracle. Et je te le demande au nom de Jésus. Souffle et parle. Ordonne, commande. Et nous obéirons, et nous serons obéissants, et nous vaincrons, et nous sortirons, et nous serons là devant toi utilisables, propres à toute bonne œuvre. Seigneur, je te prie, oui, de te glorifier maintenant, dans nos souffrances, dans nos faiblesses, dans nos peurs, dans nos raisonnements, dans nos attitudes, dans nos agissements, et de nous transformer, de nous changer, de nous ramener à cette saine et sainte vocation à laquelle tu nous as appelés. Amen. On va rester un moment les yeux fermés.